Taper sur Google le nom d'un candidat avant un entretien d'embauche est illégal. C'est pourtant très fréquent, quoi de plus anodin que ce petit geste avant toute rencontre, ne serait-ce que pour voir la tête de celui ou celle qu'on se prépare à recevoir. Mais le préposé à la protection des données des cantons du Jura et de Neuchâtel est formel. Si on est employeur, on n'a pas le droit de googliser ses futurs employés, Virginie Pilot.
Oui, parce que du point de vue de ce préposé, en tout cas, cette pratique viole un certain nombre de règlements, vous l'avez dit, elle est pourtant très répandue. Xavier Chauville dirige le cabinet de recrutement Page Personnel, Page à Zurich. Beaucoup de ses clients googlisent les candidats, donc cherchent des renseignements sur Internet à propos des éventuels candidats. Et il en a eu la preuve récemment. Il a proposé un cadre à l'un de ses clients, une multinationale qui avait un poste à pourvoir. Mais celui-ci s'est allé un peu trop sur les réseaux sociaux au goût de l'entreprise.
Alors, il est très difficile d'évaluer les vraies raisons pour lesquelles un candidat se retrouve rejeté d'un processus de recrutement, mais c'est vrai qu'il nous est déjà arrivé, malheureusement, d'avoir un client qui nous rejette la candidature d'un candidat arrivé à un stade très avancé dans le processus de recrutement. Et après avoir mentionné quelques critères professionnels, il nous a aussi mentionné le fait qu'il avait trouvé l'appartenance de ce candidat au parti UDC et avec des propos un petit peu extrêmes. C'est compliqué de comprendre le poids de cette information dans la prise de décision, mais ça nous est... C'était une preuve que l'image du candidat sur Internet compte, malheureusement.
Alors, du point de vue du préposé à la protection des données, cet employeur était donc dans l'illégalité. Bon, le cabinet de recrutement n'a pas communiqué au candidat toutes les raisons du refus.
Ouais, on peut imaginer. Illégalité, donc, selon le préposé à la protection des données du canton du Jura de Neuchâtel. Beaucoup de gens sont aujourd'hui présents sur toutes sortes de réseaux sociaux. Pourquoi les employeurs n'ont-ils pas le droit, finalement, de consulter ces pages?
Tout simplement, parce que vous avez accès, comme ça, à des informations personnelles qui n'entreraient pas dans le cadre d'un entretien d'embauche. Tout ce qui touche à la religion, aux activités politiques, même aux activités familiales, ça ne devrait pas être abordé dans un entretien d'embauche pour une candidature, donc pas faire l'objet de recherches sur Internet non plus. Je vous propose d'écouter maintenant les explications du préposé en question, donc Christian Flückiger, préposé à la protection des données des cantons de Jura et Neuchâtel.
La googlisation n'est pas interdite en soi. Simplement, je défie quiconque de réussir à googliser un candidat à un emploi en respectant les règles de la protection des données. Parce que le code des obligations, les règles sur le droit du travail, prévoient qu'un employeur n'ose récolter, traiter que les données nécessaires à évaluer l'aptitude du candidat ou nécessaires à l'exécution du contrat. Ce qui limite beaucoup les choses, parce que toutes les données qui font partie du cadre privé n'ont pas à venir aux oreilles et aux yeux de l'employeur.
Pour Mathieu Piquet, le responsable du service juridique de la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie, la googlisation est légitime, mais à certaines conditions.
C'est sûr que ce n'est pas compliqué de le faire. Techniquement parlant, tout le monde sait le faire et la tentation est certainement forte. Maintenant, il ne faut pas non plus penser que le fait de googliser un candidat, par exemple, à l'embauche, est forcément illicite. L'employeur qui chercherait des informations de l'ordre strictement professionnel qui seraient en lien avec l'activité proposée, cette activité-là ne serait pas forcément illicite en soi.
Seulement, le problème, c'est quand on googlise quelqu'un, on ne choisit pas les informations qu'on obtient, finalement.
C'est clair, ça va être très compliqué de trier. Simplement, certainement, beaucoup d'informations vont apparaître au moment de la googlisation. À ce moment-là, l'employeur devra avoir le réflexe de fermer les yeux. C'est un peu difficile, mais d'éviter, en tout cas, de creuser, de cliquer sur des liens qui, a priori, paraissent donner des informations d'ordre privé et s'en tenir peut-être à des aspects purement professionnels. Par exemple, on pourrait imaginer un profil LinkedIn ne serait pas considéré comme un élément privé, mais bien professionnel. Mais c'est clair que d'aller voir les photos de vacances de ses collaborateurs, ça ne serait pas admissible.
Donc il faudrait plutôt, selon vous, un peu choisir sur quel réseau social on va regarder.
Alors, le type de réseau social, évidemment, chaque réseau social a une connotation qui est plus ou moins professionnelle ou privée. Maintenant, il y a aussi des situations où peut-être le collaborateur lui-même a indiqué des références à l'employeur. Peut-être qu'il est même ami avec lui sur Facebook ou bien lié sur LinkedIn. À partir de là, l'employé aussi accepte, en mettant son employeur dans son réseau de contact, il donne ainsi accès à l'employeur à certaines informations, forcément.
Chez Page Personnel, on est sur la même longueur d'onde. Les chasseurs de têtes, qu'on appelle consultants à l'interne, peuvent googliser les candidats, mais ils doivent ensuite, théoriquement, faire le tri dans les informations récoltées. Xavier Chauville.
Libre aux consultants d'aller se renseigner c'est de taper le nom du candidat sur Google. On peut à ce moment-là trouver différents types d'informations, mais qui n'auront pas forcément vocation à être utilisées. La difficulté est de faire la part des choses entre les informations qui sont professionnelles, qu'on va trouver sur les réseaux sociaux type LinkedIn, et puis ce qu'on va trouver qui est plus personnel, qui vont être sur des réseaux sociaux type Facebook, ou alors même complètement personnel, et qui peuvent dépendre effectivement de l'appartenance à une association, d'une activité politique, etc. Et même si effectivement ça ne doit pas intervenir dans le processus de recrutement, il est très difficile de garantir que toute personne restera complètement objective par rapport à ça. On a une forte éthique et une charte de non-discrimination qui est signée par tous les directeurs du board et implémentée au quotidien et suivie au quotidien par tous nos consultants, et qui est là pour éviter des dérapages.
Oui, l'autorégulation avec par exemple l'adoption d'une charte, c'est un peu la seule solution à ce problème.
Bah oui, parce qu'évidemment on ne peut pas mettre un gendarme derrière l'épaule, derrière le dos de chaque patron internaute. Christian Flückiger est bien conscient de cette difficulté.
Devant la réalité des choses, en sachant qu'à peu près 80-90% des ressources humaines commencent par aller googliser les dossiers, comment vérifier qu'un employeur respecte les règles? Mais à force de dire qu'on n'ose pas le faire, qu'il y a quand même un risque potentiel un jour qu'on se le fasse reprocher puis que ça coûte quelque chose pour l'employeur, ça va sensibiliser le monde des employeurs à faire le plus juste possible.
Et à la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie, on estime quand même que le préposé est un petit peu jusqu'au boutiste. On retrouve Mathieu Piquet.
Alors certainement que les préposés à la protection des données, que ce soit dans les cantons ou au niveau de la Confédération, sont des lignes très très restrictives en matière. Et souvent, ces directives ne sont pas transposables à 100% en pratique, pas seulement dans le cadre de ces questions d'Internet, mais aussi dans d'autres situations, comme la vidéosurveillance ou plutôt la surveillance Internet ou des courriers électroniques. Appliquer à la lettre ces directives, c'est parfois extrêmement compliqué et très lourd en procédure et souvent impraticable. Donc il faut essayer de faire au mieux, mais on ne peut pas non plus les suivre à la lettre. Il faut aussi savoir que ce ne sont que des directives et du préposé, et ce ne sont pas des qui ont par force de loi, donc ça, on ne peut pas non plus les prendre pour argent comptant à chaque fois.
Bon, en tant que responsable, Virginie, on voit que les choses ne vont pas changer demain. Qu'est-ce que peut faire un employé qui s'apercevrait de manière claire que sa candidature a été écartée après que son futur employeur l'ait googlisé, justement?
Alors, selon Christian Flückiger, on peut retrouver des traces des recherches qui ont été faites par l'employeur.
L'avantage de la googlisation, c'est que ça laisse des traces informatiques. Donc il a peut-être une chance d'en obtenir par ce biais, mais avant de réussir à contraindre l'employeur à fournir ses traces informatiques, il lui faudra des éléments pour convaincre un tribunal qu'il a été évincé à tort et qu'il faut saisir ces éléments de preuve. Mais voilà, il n'y a pas un gendarme derrière chaque employeur, et puis que ce genre de questions auront cours encore un moment.
Alors l'employé devra tenter de réunir des preuves qui montreraient que l'information décisive qui a fait qu'on a écarté sa candidature ne figurait que sur Internet, donc que l'employeur n'a pas pu l'apprendre autrement. On voit que c'est évidemment très difficile. Il reste plus qu'à appliquer le bon vieux conseil de prudence sur Internet quand on cherche un emploi, assurément. Ne montrez que ce dont vous êtes fier ou ce que vous partageriez avec absolument n'importe qui dans la rue. Ou alors une autre solution suggérée hier soir quand on a lancé la discussion sur ce thème sur les réseaux sociaux par un auditeur, Olivier Détrat, qui propose lui d'adopter un pseudo pour partager les choses personnelles avec sa famille ou ses amis. Et puis à côté de ça, on peut se créer un profil numérique, cette fois sous son vrai nom, où on se mettrait en valeur, et cette fois à l'intention des recruteurs.
Oui, merci Virginie Pilot. On va retenir ce conseil, évidemment, de ne pas mettre n'importe quoi déjà, et puis sinon de le faire sous pseudo pour des choses qui peuvent être privées. Puis il faut peut-être aussi espérer avoir des homonymes qui sont aussi prudents que nous-mêmes, parce que si jamais on googlise un nom, on n'est pas sûr de tomber sur la bonne personne. C'est aussi une des raisons pour lesquelles le préposé à la protection des données trouve cette pratique peu légitime.
Absolument.
On va dire. Merci en tout cas pour cet éclairage sur une question on ne peut plus d'actualité.